Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Hier soir, vous avez peut-être regardé la 46e cérémonie des Césars. Alors nous n'allons pas revenir sur le palmarès ou ce qui s'est passé durant la soirée, mais je vais vous raconter la grande histoire des Césars. Depuis sa création en 1976, pour donner le change aux Oscars de l'autre côté de l'Atlantique, jusqu'à hier soir donc, des années de célébration du cinéma, de celles et ceux qui le font, de coups de théâtre et surtout de miroir des problèmes qui agitent notre société. Jusqu'à la cérémonie l'an dernier, vous vous en rappelez, le Sacre de Roman Polanski, ce sera notre récit du jour. 14h30, les films de ma vie, et aujourd'hui, c'est François Berléand qui a accepté de nous raconter ses grands souvenirs de cinéma. François Berléand, qui est membre du jury du Festival de Luchon. Alors par exemple, quel est son souvenir de séance de cinéma la plus dingue ?
Presque au moment de sa mort, je l'ai entendu dire « Mon père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. »
Même à cet instant.
Et voilà, une séance de bénure. Pourquoi sa séance la plus dingue? Vous découvrirez tout dans notre questionnaire de Proust version cinéma, c'est dans une demi-heure. Et puis juste après, j'accueillerai mes collègues critiques pour débattre des films sortis en DVD, VOD ou sur vos plateformes. Au programme aujourd'hui, la comédie Tout Simplement Noir qui débarque sur MyCanal. On parlera aussi de La Fille au Bracelet, de Sentinelle sur Netflix, portée par Olga Kurylenko. Et on dira quelques mots de Cherry qui arrive sur Apple TV. Voilà pour le programme de votre Clap qui démarre maintenant avec notre récit consacré à l'histoire mouvementée des Césars.
Europe 1. Le récit.
Aux États-Unis, les Oscars ont vu le jour en 1929. Mais en France, il a fallu attendre 1975. Pendant tout ce temps, la France, le pays du cinéma, n'avait aucune cérémonie pour récompenser ses créateurs. C'est Georges Craven qui va y remédier, attaché de presse, journaliste, producteur, publicitaire. Il connaît le tout Paris et commence donc par structurer une académie des arts et techniques du cinéma. Il ne va pas chercher très loin l'idée, il s'inspire en fait de l'académie des Oscars, en créant donc un corps électoral issu du milieu du cinéma. Quant au prix qui fera office de statuette donc, sa création est confiée au célèbre sculpteur César. La première cérémonie se déroule le 3 avril 1976 sur Antenne 2. Jean Gabin préside, Pierre Tchernia en assure la présentation et Romy Schneider remporte le premier César de meilleure actrice pour L'importance est d'aimer d'Andrzej Żuławski.
Je ne fais pas du tout de la fausse modestie, j'en suis très très fière qu'on m'a donné spécialement pour ce rôle dans L'importance est d'aimer. Pour moi, c'est peut-être plus que seulement une petite statue. Le prix ce soir, le César, parce que c'est un travail et un rôle auquel je tenais beaucoup.
Ça y est, le cinéma français a donc sa propre cérémonie et pourtant, elle part sur de mauvaises bases. D'abord parce que certaines stars de l'époque boudent les Césars. Belmondo par exemple. Pourquoi ? L'une des raisons avancées, son père, lui-même sculpteur, détestait justement César. Miu Miu aussi refuse de se rendre à la cérémonie, alors qu'en 1980, elle est sacrée meilleure actrice pour son rôle dans La Dérobade. Elle y joue Marie, une jeune femme issue d'une famille d'ouvriers qui tombe amoureuse de Gérard, avant de découvrir que c'est un maquereau dangereux et sadique.
Si je fais ça, c'est uniquement pour me confirmer un truc que j'ai toujours su, que je suis un pauvre type.
Mais dis donc, petit bout, tu discutes ou tu baises ?
Parle-moi encore comme ça.
C'est vrai, t'es un pauvre type. Un minable. Tout le monde se fout de ta gueule derrière ton dos. Tu le sais, ça. Alors maintenant, pour baiser, où tu vas ? Au bordel ? Tu payes maintenant ! Tu payes !
Sauf que le jour où Miu Miu doit venir chercher sa récompense, eh bien figurez-vous qu'elle a une contre-soirée. Romy Schneider, qui préside la cérémonie, crie au manque de respect. Bien plus tard, au micro d'un dimanche de cinéma sur Europe 1, Miu Miu s'en était expliqué et ne regrettait rien.
Je vais vous dire, moi, ce prix, je l'ai vu naître. C'est-à-dire qu'il ne représentait rien pour moi. Et surtout, je ne crois pas qu'il y a une meilleure actrice, un meilleur acteur, un meilleur metteur en scène. Ça serait très dommage pour notre métier. Donc, comme je n'y crois pas, je ne vois pas pourquoi j'irai.
Il faudra attendre 1981 pour que les Césars gagnent en prestige. Cette année-là, François Truffaut en remporte 10 pour son dernier métro porté par Depardieu et Deneuve.
C'est elle ?
Ouais, c'était elle.
Elle est belle.
Tu as fait de moi ta prisonnière.
La carte d'identité que je vous ai montrée a été trouvée sur un passeur.
En fait, il y a des passeurs, des soi-disant passeurs, qui prennent l'argent et puis qui arrêtent le camion juste devant la commandatour.
des récompenses qui relancent la carrière du film. Truffaut se fendra même d'une lettre de remerciement adressée à George Craven. Ça y est, la cérémonie devient un événement incontournable du cinéma français. 2 ans plus tard, pour faire émerger de nouveaux talents, une nouvelle catégorie est créée, meilleur espoir féminin et masculin. La première à remporter le titre, un indice.
Bon, puis ça suffit. Avant tout, une règle. T'es malade, en panne, enceinte, droguée, un coup dur, tu téléphones.
Pas que les coups durs dans la vie. Il y a plein de choses qui peuvent vous empêcher de téléphoner. On m'a piqué mon sac, on a marché, il pleuvait. On n'avait pas d'argent. On a fait du stop. Mais c'était pas des coups durs, justement, parce qu'on était bien, j'étais heureuse et j'avais pas envie de rentrer, même si je savais que vous soyez inquiet et que t'allais m'engueuler.
Et vous avez reconnu Sophie Marceau pour son rôle dans La Boum numéro 2, précisément. Écoutez-la sur scène recevoir son prix.
Je m'attendais pas du tout à la voir et je l'ai reçue, je suis vraiment très très heureuse.
Mais ce sont vraiment des larmes de bonheur, là.
Je sais pas, oui. Et vraiment, ça me touche énormément qu'ils ont pensé aux jeunes pour les 8e César.
Vous avez quel âge, Sophie ?
J'ai 16 ans.
C'est un rêve merveilleux pour vous ?
Ma conte de fées, j'espère qu'il va continuer.
Alors beaucoup de stars d'aujourd'hui ont commencé par recevoir ce César du meilleur espoir. Sandrine Kimberlin, par exemple, en 95 pour Les Patriotes, Audrey Tautou pour Vénus Beauté ou encore Mélanie Laurent. Chez les hommes, on peut citer Mathieu Amalric ou Jean-Paul Rouve. Un César permet d'asseoir sa légitimité et parfois aussi de clouer le bec à ses détracteurs. En 1990, Vanessa Paradis est sacrée pour son rôle dans Noce Blanche.
Je pense pas que le César change grand chose. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient pas beaucoup en moi et qui me traitaient plutôt comme une vulgaire petite merde. Je crois qu'avec le succès de Noce Blanche, je l'aurais mis dans la gueule, quoi.
À partir de 1993, la cérémonie des Césars quitte le service public pour être diffusée sur Canal+. C'est aussi à cette période qu'elle prend une tournure plus politique et les Césars deviennent souvent une tribune pour parler des enjeux du moment, des droits des intermittents, du manque de diversité. La cible préférée des remettants ou des vainqueurs, le ministre de la Culture, invité chaque année et régulièrement prise à partie. En 2006, par exemple, la cérémonie est fortement perturbée. Elle commence avec 20 minutes de retard. La raison, on est en pleine réforme de l'indemnisation des intermittents. Leurs représentants n'hésitent pas à monter sur scène et à apostropher le ministre de la Culture de l'époque, Renaud Donodieu de Vabre. D'autres sont refoulés dehors. Écoutez-les au micro de Marjorie Roulman.
C'est pas du tout pour annuler les Césars, ni pour les pourrir, ni pour quoi que ce soit. On est là juste pour se représenter en tant qu'intermittent. C'est des intermittents qui font le cinéma. Et là, on crie depuis tout à l'heure, il n'y a pas de cinéma sans intermittents. Voilà.
Autre polémique à laquelle va devoir faire face l'Académie des Césars, celle du manque de récompense pour les comédies. Elles repartent souvent bredouilles. Et encore, quand elles sont nommées, le meilleur exemple, Danny Boone. Il a battu tous les records avec son Bienvenue chez les Ch'tis et il n'a pas eu droit aux honneurs du milieu du cinéma.
J'étais pas fâché, je boudais pas, j'étais triste, un peu déçu, triste, ce que j'ai dit d'ailleurs. D'un seul coup, ça a pris effectivement une ampleur assez considérable. Et puis voilà, et j'ai été très heureux d'apprendre que l'Académie des Césars allait penser à l'éventualité de la création d'un César de la meilleure comédie.
Alors ce César de la comédie, il va être créé, mais il va prendre en fait la forme du César du public, attribué automatiquement aux films français ayant fait le plus d'entrées, bien souvent une comédie donc, le César du public qui voit le jour en 2018 et qui est supprimé 2 ans plus tard, il n'a pas duré longtemps. Autre thème qui va prendre de plus en plus de place sur la scène de la cérémonie des Césars, c'est celui de la diversité. Le cinéma ne reflèterait pas assez notre société. En 2000, le Guadeloupéen comédien-réalisateur Luc Saint-Éloi fait une apparition surprise sur scène et prend la parole.
Imaginez dans ce pays, dans tous les cinémas, des écrans qui projetteraient exclusivement des histoires entre noirs pour des noirs à l'exclusion de toute autre couleur. Et vous, chers compatriotes, imaginez que vous soyez absent, invisible. Imaginez seulement, mais rassurez-vous, ce rôle d'absent, c'est nous.
Et puis monte aussi la question des femmes dans le sillage de l'affaire Weinstein. Il faut dire que le cinéma français n'a jamais vraiment fait son MeToo. D'ailleurs, un certain Roman Polanski, déjà lui, va mettre le feu aux poudres en 2017. Il est choisi par Alain Terzian pour présider la cérémonie des Césars. Sous la pression des féministes, Polanski finit par renoncer. Mais à l'époque, le milieu du cinéma le soutient. Alexandre Arcadi dénonçait même l'absurdité, selon lui, de cette situation.
Écoutez, il y a un mot, moi, qui me vient aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte. qu'est-ce que c'est cette situation de s'acharner sur un artiste comme Polanski. Je vous dis, moi, si j'étais à sa place, j'aurais maintenu ma présidence au César. Je l'aurais maintenu. Parce qu'il ne faut pas succomber à ce dictat, à ces ayatollahs de la bien-pensance.
Sauf que 3 ans plus tard, rebelote, cette fois Roman Polanski est multinommé pour son film J'accuse, notamment dans la catégorie de meilleur réalisateur, alors qu'une jeune femme, Valentine Meunier, l'accuse de viol. La famille du cinéma se fissure, il y a ceux qui veulent séparer l'homme de l'artiste et ceux qui ne comprennent pas ces nominations. La cérémonie se déroule dans un climat tendu, salle Pleyel, alors qu'à l'extérieur, les féministes manifestent. La suite, on la connaît, Adèle Haenel qui se lève à l'annonce du sacre de Polanski, meilleur réalisateur.
Vive la pédophilie ! Bravo la pédophilie ! Bravo !
Et en coulisses, chacun y va de son commentaire. Fanny Ardant défend Polanski. Arnaud Desplechin est plus nuancé.
Écoutez-moi, quand j'aime quelqu'un, je l'aime passionnément. Et j'aime beaucoup, beaucoup Roman Polanski. Donc je suis très heureuse pour lui.
Juge, je ne sais pas faire, c'est un métier qui me dépasse totalement. Donc je ne sais pas juger les gens. Moi, personnellement, je ne pouvais pas rater un film de Polanski. Donc je ne juge pas l'homme, je juge l'œuvre. Mais je comprends très bien que des gens puissent préférer ne pas aller voir le film.
S'ensuit une année de crise dans le cinéma français qui va déboucher sur le renouveau. Alain Terzian démissionne, les membres de droit sont exclus et une nouvelle direction, paritaire cette fois, prend ses fonctions. Pour quel résultat, quel avenir, qu'est-ce que tout ça va changer dans le milieu du cinéma? Et bien on en parle dans un instant avec mon invité Thierry Chaise, rédacteur en chef au magazine Première et surtout voix historique des Césars. C'est lui, vous entendez faire la petite biographie du lauréat lorsqu'il est appelé sur scène. Il a aussi réalisé le documentaire 30 ans de César et il sera donc dans Clap dans un tout petit instant. Le temps d'écouter Elisa de Serge Gainsbourg qui avait justement reçu le César de la meilleure musique de film en 1996 parce que Jean Becker l'avait reprise comme bande originale de son film Elisa. Vous êtes à l'écoute de Clap sur Europe 1.
Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi des poux. Fais-moi quelques anglaises et l'arrêt au milieu. On a 13, 14 ans à nous deux. Elisa, 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 les autres on s'en fout. Elisa, 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 rien que toi, moi, nous, t'es 20 ans et 40. Si tu crois que cela me tourmente, oh non, vraiment, Elisa. Cherche-moi des poux, enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Elisa.
Et pour poursuivre notre récit autour des Césars dans Clap aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Thierry Chaise. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Qui connaît la maison, vous le retrouvez souvent dans la partie critique juste après celle-là. Aujourd'hui, il est là. Évidemment, en tant que journaliste à Première, évidemment, en tant que fin connaisseur du cinéma, vous avez réalisé le documentaire qui s'appelle 30 ans de César, il y a quelques années maintenant. Et surtout, c'est la voix des Césars. C'est-à-dire, chers auditeurs, si hier soir vous avez regardé les Césars, vous aviez la petite voix de Thierry qui vous raconte voilà, la biographie du ou des primés quand ils montent sur scène. C'est vous qui préparez toutes les petites fiches et,
exactement.
Et qui faites ça. Bon, vous connaissez bien les Césars. Je vais vous poser une question d'abord assez large, mais c'est vrai que ces dernières années, on a vu que les Césars devenaient avant tout une tribune politique. Est-ce que ça a toujours été le cas?
Ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'au début, ils étaient assez boudés. Donc, oui. À partir du moment où il n'y a pas vraiment de stars qui viennent, à quoi bon faire ces manifestations-là? Ça a été vraiment beaucoup plus le cas dans les années 90, quand il y a eu des impulsions, la présence des Bakri Jaoui, qui l'ouvraient à chaque prix. jouer vraiment là-dessus. Mais c'est vrai qu'au départ, ça n'a pas été conçu comme ça. C'était plutôt une assemblée bourgeoise, je dirais, créée par Georges Craven, qui vient de la publicité. L'idée était plutôt de faire comme les Oscars, donc plutôt aseptisé. Et il n'y avait pas vraiment une caisse de résonance. Je pense que la caisse de résonance est venue aussi avec l'arrivée du diffuseur qui était Canal+, plutôt que Antenne 2 à l'époque. Et puis, je pense que c'est ça. Mais c'est vraiment, oui, depuis les années 90.
Est-ce que la réforme qu'on a connue cette année, on ne va pas revenir sur Adèle Haenel l'année dernière, Polanski, etc. Mais les Césars ont été obligés de se réformer. Il y a la parité, il y a plus de diversité. Voilà, c'est le début d'une grande transformation. Est-ce que finalement, c'était ou bien ça, ou bien les Césars allaient mourir ?
Je pense que c'était indispensable. Parce que, une fois encore, les gens votent. La victoire de Polanski l'année dernière, ce n'est pas la victoire d'un jury de 10, c'est la victoire de tous les votants.
Du milieu du cinéma.
Donc, à partir de là, on se dit, il faut élargir. Ça avait été déjà la volonté de Toscan du Plantier quand il avait repris la main au César créée par Craven. Au début des années 90, lui, il avait fait rentrer tous les exploitants de salles. Et ça avait commencé à changer. On voit les votes. C'est à partir des années 90 que les ultra favoris, les stars, ne gagnent plus vraiment. Mmh. Que c'est plutôt Isabelle Carré, Sylvie Testu, que Catherine Deneuve et Isabelle Huppert. Donc il y a véritablement un effet, et je pense qu'il y aura aussi un autre effet, alors vers peut-être des gens plus jeunes là aussi qui vont gagner, plus de diversité avec le votant. C'est indispensable parce que c'est la source de tout.
Et est-ce que c'est ça aussi qui, en second rideau, va permettre de faire changer le milieu du cinéma? Parce que on l'a beaucoup dit, le milieu du cinéma est un milieu plutôt patriarcal, on a du mal, cette année encore, il y avait peu de femmes nommées. Est-ce que voilà, la suite logique, ça va être ça aussi? C'est-à-dire que des Césars plus paritaires vont conduire sans doute à plus de diversité
Moi, je pense que tout fonctionne ensemble. Alors, c'est l'œuf et la poule.
C'est ça.
Mais je pense que c'est parce qu'il y aura plus de diversité qu'il y aura plus de Césars, et parce qu'on se dit « Ah, je peux vraiment avoir un César ?» Je vais peut-être me lancer dans le cinéma. C'est toujours la force de l'exemple, en fait. Moi, je me souviens de Jean-Pierre Jeunet, quand il avait gagné pour Délicatessen. Il avait vraiment dit, vous pouvez y croire. Moi, j'y suis arrivé. J'ai pas fait d'études et tout ça. Vous pouvez y croire. Je pense que ça va être la même chose avec les lauréats comme ça. Dire, voyez, moi, je sors pas de la grande école qui est la Fémis. Je ne suis pas un fils ou une fille d'eux. Je ne suis pas un homme. Mais je réussis. Donc, c'est la force de l'exemple. Et je trouve que d'y aller par le vote est quelque chose d'assez formidable plutôt que d'imposer. Donc, c'est une mesure que je trouve, moi, excellente.
Thierry Chaise, on dit souvent que les Césars, c'est un peu aussi le thermomètre de l'état du cinéma français. J'ai envie de vous dire, ça va pas très bien du coup.
C'est une très belle phrase qu'a dit Roche Dizem dans les Incorruptibles cette semaine. C'est l'année dernière, on n'a pas pu s'embrasser, on ne se doutait pas qu'en fait on ne pourrait plus pendant plus d'un an. Oui, il y a toujours eu des tensions. Depuis que je m'intéresse au César, il y a toujours ceux qui regardaient en se pinçant le nez.
C'est ça.
En disant, mais qu'est-ce que c'est que ce grand rendez-vous? Il y a des acteurs qui trouvaient, comme Jean-Pierre Marielle, Miu Miu, Gérard Lanvin, qui trouvaient que ça ne servait à rien. Mais sauf que là, je pense que ce qui s'est passé l'année dernière, en effet, symbolise une vraie scission, je dirais, qui est celle de la société aussi, entre finalement une génération plus âgée et une génération plus jeune. Il n'y a pas de raison que ce qui se passe dans la société n'influe pas dans le cinéma, et donc au César, sinon ça voudrait dire que le cinéma est totalement déconnecté. Et je pense que l'année dernière a été un peu le moment fort de quelque chose qui était en sourdine. Il fallait un cas pour que tout s'exprime et qu'on casse une fois pour toutes. Et je pense qu'une fois qu'on a cassé ça, l'idée quand même c'est que en un an, il y a une reconstruction qui commence, et ça c'est intéressant. Mais oui, heureusement que les Césars racontent le cinéma, et heureusement que le cinéma raconte la société.
Et en même temps, on voit que d'année en année, les audiences des Césars, c'est plus que c'était. Pourquoi ? Pourquoi le grand public se détourne un petit peu, même si c'est l'année dernière?
Oui,
parce qu'il y a eu l'esclandre. Mais pourquoi les Césars, pourquoi le public se détourne? C'est-à-dire que le public va toujours autant en salle, évidemment on va mettre le Covid de côté, on fait les 200 millions d'entrées chaque année. Et pourtant, on a l'impression que les gens, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de comédie? Est-ce que c'est l'impression que les gens n'ont pas envie de regarder les Césars?
Bon, je dirais qu'il y a deux raisons. Il y a d'abord le fait qu'il y ait de plus en plus de chaînes, et comme partout,
ça
baisse.
Ça se dilue.
Et la deuxième chose, c'est qu'on voit que les années où il y a eu le plus de succès récemment, alors à part l'année dernière, c'est les années où des films avaient été vus par le plus grand nombre. Pas forcément des comédies. Moi, je repense à l'année où il y avait The Artist contre Intouchables, contre Police. C'est la dernière grosse année d'audience parce que une majorité de gens au-delà du cercle des cinéphiles avaient vu ces films-là et ont envie de savoir si Omar Sy allait battre Jean Dujardin, si Mae Wen allait battre Michel Hazanavicius. Donc moi, je pense qu'il y a un côté, il faut que les films soient vus. Donc pas forcément des comédies, je trouve que c'est les comédies qui sont les plus vues. Donc, d'ailleurs, on voit bien que l'idée
On s'en sort pas de ces comédies.
Le César du public, on voit bien que ça n'a servi à rien.
Pourquoi il n'y a pas un César de la comédie, tout simplement ?
Mais parce qu'il faudrait faire, alors à ce cas-là, un César du drame, il faudrait faire un César du polar.
Oui, mais ils sont représentés, les drames et les polars, tous les ans.
Mais les comédies sont représentées aussi. Ils ne gagnent pas toujours. Mais ça dépend lesquelles. Alors, ça dépend quelles. Antoinette dans les Cévennes, cette année, était représentée. C'est une comédie. Alors, les films de la bande à Fifi ne le sont pas. Mais les films, l'équivalent des films de la bande à Fifi ne l'ont jamais été. Les films des Charlots n'ont jamais été. De Funès, alors, ce n'était pas sa meilleure période, mais entre 76 et sa mort, ne l'a jamais été. Il a juste eu un César d'honneur. Trois hommes et un couffant ont quand même gagné, les Ripoux ont quand même gagné, les Inconnus ont quand même gagné.
Tout va bien.
Non, tout ne va pas bien. Mais ça veut. Tout ne va pas bien. Mais c'est aussi logique. En fait, les Césars, c'est un peu l'équivalent des festivals. Dans tous les cas, d'un festival comme Cannes, on voit bien que chaque année, les films qui sont en compétition à Cannes, en gros, sur quatre films français en compétition à Cannes, trois sont dans le César des meilleurs films et l'autre, vraiment, c'est qu'il y a eu un problème. Donc non, tout ne va pas bien. Mais. Je pense qu'il peut y avoir des succès populaires qui ne soient pas des comédies. Et dès que c'est ça, les gens regardent.
Bon, merci Thierry Chaise, qu'on retrouvera dans nos émissions, dans Club, vous êtes un habitué, on vous retrouvera dans la partie,
avec grand plaisir.
Dans la partie critique. Mais effectivement, je voulais vous entendre aujourd'hui pour parler de ces Césars, parce que voilà, vous êtes la voix qui nous a... Ça fait combien de temps que vous faites la voix des Césars ?
Ça doit faire 12 ans.
Voilà, 12 ans que les auditeurs et les téléspectateurs vous entendent quand c'est Mae Wen. Voilà, Mae Wen a commencé le cinéma. Faites la petite...
Vous m'y venez très bien.
Faites la petite biographie du vainqueur et des vainqueurs. Merci beaucoup Thierry, en tout cas, d'être venu une nouvelle fois dans Clap. Nous, les amis, on se retrouve dans un tout petit instant. Alors, sans Thierry pour cette fois, mais on va accueillir quand même nos collègues critiques pour débattre des films qui sont sortis en VOD, DVD ou sur vos plateformes. On parlera notamment de Tout Simplement Noir, de Sentinelle sur Netflix, de La Fille au Bracelet ou de Cherry sur Apple TV. Tout de suite.
Europe 1.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. On est maintenant en compagnie de François Berléand. Bonjour.
Bonjour.
Alors que vous êtes membre du jury du festival de Luchon qui s'achève demain. Festival évidemment en ligne cette année. D'ailleurs, je le dis à nos auditeurs, s'ils veulent en profiter, il reste encore quelques heures pour regarder des films gratuitement en ligne. Il suffit de s'inscrire, c'est ça ?
Absolument, tout à fait.
Donc c'est l'occasion d'en profiter.
Oui, tout à fait, oui, absolument. Mais je rappelle que ce sont des films de fiction, des séries, mais uniquement dédiés à la télévision, pas au cinéma.
Bon, alors nous, on va faire notre petit questionnaire cinéma. Est-ce que vous êtes prêt ?
Oui, prêt.
Votre premier souvenir de cinéma, François Berléand ?
Alors, mon premier souvenir de cinéma, c'était Alamo. C'était un film... avec John Wayne qui était en Fort Alamo, c'était dans les années 60, je devais avoir 7-8 ans et j'étais allé voir tout ça avec mon père, ma mère, mes grands-parents et ça a été vraiment la grosse sortie. On est allé en métro et on était sur les grands boulevards dans un cinéma qui s'appelait je ne sais plus comment mais qui est devenu un jouet club maintenant, donc voilà, c'est triste mais c'est comme ça.
Je suis content de vous voir réunis. J'ai d'excellentes nouvelles. Panin fait des prodiges à Goliath. Il a maintenant 1 millier d'hommes ou presque et il va sans doute se mettre en route vers la fin de la semaine.
Qu'il soit là ou non, nous sommes bel et bien pris au piège, sans la moindre raison. Ce qu'il faut faire tout de suite, c'est brûler tout le village, y compris cette mission.
Se livrer à des actions isolées. Harceler Santa Anna pendant qu'il remonte à travers le Texas. C'est ce que le colonel Bowie suggère.
Regardez-moi, nous rejetons cette théorie. Au passage de chaque fleuve entre ici
vous oubliez une seule chose, colonel Bowie. Quoi ? C'est que c'est moi le chef et que j'ai déjà condamné votre plan.
C'était un peu tôt pour vous donner la fibre du cinéma et vous dire un jour vous seriez acteur.
Ah non, oui, c'est, oh là là, à l'époque, non, jamais. Moi, c'est arrivé à 18 ans, donc c'est beaucoup plus tard. Mais ça, c'était à 8 ans. La première fois, je suis allé dans vraiment un film dont je me rappelle. Hein.
Oui.
Sinon, j'étais là avant, mais je m'en souviens plus.
Votre meilleur souvenir en salle ?
Alors, mon meilleur souvenir en salle, alors ce serait Ben Hur. Je me souviens de l'entracte de Ben Hur parce qu'il y avait eu Mico, les glaces Mico, qui étaient venus et ils ont distribué des chocolats, des Esquimaux gratuitement. Donc, ça a été une orgie de... Donc c'était Ben Hur, je peux vous dire, je m'en souviens parfaitement.
Vous pouvez occuper notre terre, vous pouvez martyriser notre peuple, mais quoi que vous puissiez faire, nous nous relèverons un jour.
Oh, tu te nourris de songes morts, tu vis encore dans les croyances d'autrefois.
Il n'y a qu'une seule réalité dans le monde d'aujourd'hui. Tourne les yeux vers l'ouest. Ne sois pas stupide, regarde vers Rome. Rome est une offense à Dieu. Rome étrangle mon peuple, ma patrie, l'univers entier.
Est-ce qu'il y a un film que vous aimez, François Berléand, mais vous avez honte de l'avouer ?
Et qu'est-ce qu'il y a comme film que j'aurais pu avoir honte de... La gueule de l'autre, mais de Tchernia, mais je vois pas pourquoi j'aurais honte de la... Non, j'ai honte parce que c'est un film drôle qui est à voir au 25e degré. C'est vrai que si on le voit au premier degré, c'est un peu bête, mais bon, c'est un film de Pierre Tchernia. C'était avec mon idole absolue, Michel Serrault, avec Poiret. Bon, c'était un film, pour moi, qui est un film de chevet.
Vraiment qu'il ait besoin d'un service pour penser à moi. Mon cher cousin.
Oui, oh bah dites, un service pour 2000 francs, ça peut se rendre.
Oh bah dites, je me rattrape un peu, parce que vous savez, il m'a fait louper assez d'affaires. Chaque fois que je me présente pour un rôle, on me dit non, c'est pas possible. Mais la gueule de l'autre. Déjà, quand on était gosse, il profitait de notre ressemblance pour tout me foutre sur le dos. Hein ? Je commence à en avoir sérieusement marre. De la gueule de l'autre.
Bon, en même temps, j'ai pas honte de le dire, parce que je le dis là. Et même à mes amis, voilà, ils savent très bien, on me l'a même offert en DVD pour assouvir ma passion de Michel Serrault.
Est-ce qu'il y a un dialogue de cinéma que vous connaissez par cœur, François Berléand ?
Dans les grandes familles, mais malheureusement, je l'ai pas par cœur. Et c'est une scène entre Gabin et Pierre Brasseur, et Pierre Brasseur dit à Gabin... chez toi, 10 personnes, c'est une soirée. Chez moi, c'est une partouze. Le lendemain, t'es invité en déboutant. Toi, c'est le homard. Moi, c'est à cause de la partouze. Mais un truc comme ça, enfin bon, je sais plus. Ouais.
Alors, tu me le rends, ce petit service ?
Non. C'est tout de même incroyable.
Nous sommes pourtant de la même famille.
Nous ne donnons pas le même sens à ce mot.
Ah, voilà. Nous avons de l'argent tous les deux. Toi, tu représentes le patronat, moi, le capitalisme. Nous votons à droite. Toi, c'est pour préserver la famille. Moi, c'est pour écraser l'ouvrier. 10 couples chez toi, c'est une réception. Chez moi, c'est une partouze. Et le lendemain, si nous avons des boutons, toi, c'est le homard, moi, c'est la vérole. Avoue que tout ça est bourré d'injustice.
Mon cher Lucien, je suis ravi de t'avoir revu. Maintenant, si tu veux bien me laisser travailler.
Quel est le film que vous conseilleriez à votre meilleur ami ?
Ah, Un jour sans fin. C'est un film que j'aime énormément. Et puis Bill Murray est absolument éblouissant. Il y a ça, voilà. En général, les films avec Bill Murray sont des films qui me plaisent énormément. Il y a aussi Lost in Translation que je conseillerais beaucoup. C'est mon acteur américain préféré.
Il est prisonnier.
C'est le jour de la marmotte.
D'un jour sans fin.
Je ne fais que revivre le même jour encore et encore.
Au début, c'était vraiment l'angoisse. Mais à présent,
on pourrait faire tout. Tout ce qu'on a envie de faire.
Il explore toutes les possibilités.
Tu ne t'en fais pas pour ton cholestérol.
Pourquoi ?
Et apprend à vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain.
Bill Connor, Ned !
Parce que demain n'existe plus. Bill Murray. Andy McDowell.
Allez, marmotte !
Le film que vous auriez aimé voir au cinéma, François Berléand, que vous avez vu peut-être à la télé ou en DVD ou...
Alors, le problème, c'est que je ne peux pas répondre à cette question parce que je suis vraiment un grand amateur de cinéma. Donc, tous les films que j'ai eu envie de voir, je les ai vraiment vus au cinéma.
Bon.
Ah, alors peut-être Les Enfants du Paradis, que je n'ai pas vu au cinéma, que j'ai vu uniquement à la télévision à chaque fois.
Ça n'a pas été repris à la Cinémathèque ou...
Ouais, mais c'est vrai que je... Pourtant, j'habite à côté, mais là, bon, en ce moment, c'est fermé, de toute façon. Mais,
oui.
Mais je dois dire que c'est le seul film que je n'ai pas vu sur grand écran.
Mais vous tremblez. Vous avez froid ?
Je tremble parce que je suis heureux. Je suis heureux parce que vous êtes là. Je vous aime. Et vous, Garance, aimez-vous ?
Parlez comme un enfant. C'est dans les livres qu'on aime comme ça et dans les rêves.
Les rêves, la vie, c'est pareil. Ou alors, ça vaut pour la peine de vivre. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, la vie ? C'est pour la vie que j'aime. C'est vous.
Et pour finir, François Berléand, la bande originale qui a le plus marqué votre vie ?
Le Mépris.
Ah !
Ouais. Bon, la musique est tellement extraordinaire. Ça, c'est... Ouais. Alain Delruy, il est... Ah, oh, c'est fort, fort, fort. Alors, évidemment, moi, ce qui m'a marqué ma vie, ce serait Les Choristes, mais parce que, évidemment, la bande originale, Qu'est-ce qu'à chaque fois qu'on me croisait, j'entendais nanana, alors j'en avais marre.
Et du coup, c'est ça.
Marre, mais vraiment,
vous
marre,
la supportez
marre,
plus, celle-là.
Oui, je la supportais plus. Mais le, voilà, celle du mépris, c'est tellement magnifique, mais tellement magnifique.
Bon, on va écouter les choristes ouais. plutôt alors. Merci beaucoup François Berléand d'avoir accepté de jouer le jeu de ce questionnaire.
Avec un grand plaisir, c'était amusant.
Et donc vraiment, j'incite nos auditeurs à en profiter puisqu'il reste encore quelques heures jusqu'à demain soir, Festival de Luchon. Vous vous inscrivez sur le site et vous pouvez voir des films, du contenu. Et ça fait du bien en ces temps de manque de salles, de quand même pouvoir voir des jolies choses sur notre écran dans le salon.
Voilà, et puis de savoir si vous êtes d'accord
avec le palmarès.
Avec le jury. Eh oui.
Et après, vous appelle voilà. pour en discuter.
Absolument, tout à fait.
Bon, merci en tout cas d'avoir été dans Clap aujourd'hui, François Berléand.
Mais merci à vous, merci.
Et nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de votre émission, le temps d'accueillir mes collègues critiques, et on va débattre des films sortis en DVD, VOD ou sur vos plateformes. On dira quelques mots de Tout simplement Noir qui arrive sur MyCanal, de La fille au bracelet, de Sentinelle sur Netflix et de Cherry, ça c'est sur Apple TV. À tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et ils ont pris place autour de la table pour la suite de Clap. On va maintenant parler des films sortis en DVD, VOD ou sur vos plateformes avec aujourd'hui Marilyn Le Tertre de Madame Figaro et Fabrice Leclerc de Paris Match. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, au programme Tout simplement Noir qui arrive sur MyCanal, Sentinelle, ça c'est sur Netflix, La fille au bracelet sur MyCanal une nouvelle fois et Cherry sur Apple TV dont j'ai lu il y a quelques jours un article dithyrambique. Dans Le Parisien, vous me direz ce que vous en avez pensé. On commence par Tout simplement Noir, la comédie de Jean-Pascal Zadi.
Je suis noir.
Grand.
Voilà. Je suis noir.
Martin Luther King.
Je suis nègre.
Malcolm X.
Je suis un putain voilà. de nègre.
C'est ça.
Les blancs sont interdits à ta marche.
Ils sont pas interdits.
Pas
ils sont
interdits,
pas,
ils sont mais c'est pas conseillé.
Ils sont pas conseillés. Ils vont se faire frapper.
Ouais. Non, ils vont pas du tout.
Mais il y aura pas une bonne ambiance.
Voilà. Voilà. Je vais faire une marche, moi, de mon côté avec les Indiens.
Soirée entre nous.
Va vous niquer votre marche de renom.
J'ai dit une connerie.
Jean-Pascal Zadi qui joue JP, acteur raté, il a 40 ans, sa carrière patine et il décide d'organiser une marche de l'homme noir pour la dignité, marche réservée donc aux noirs et pour laquelle il va tenter de convaincre d'abord des noirs célèbres de la compagnie. Alors vous avez Lilian Thuram, Fabrice Eboué, Claudia Tagbo, Lucien Jean-Baptiste, puis l'élargie ses cibles, Éric Judor par exemple. Alors c'est tourné à la manière d'un vrai faux documentaire. Chaque rencontre pour tenter de convaincre la personne est propice à du grand n'importe quoi. Il y a notamment une scène avec Ramzi Bedia et Jonathan Cohen qui est assez drôle. Voilà, c'est évidemment un film ancré dans l'actualité, original dans la forme, qui avait bien marché lorsqu'il était sorti en salle à l'été dernier. Il arrive sur MyCanal, on le voit, on le revoit, Marilyn.
On le revoit deux fois même. Ah. C'est très très drôle. Moi, je trouve que c'est le film français le plus drôle de l'année dernière, tout simplement. Ce qui est très très malin, c'est que... alors déjà, le film est beaucoup plus politique et
oui,
profond qu'il n'y paraît.
Premier abord.
Évidemment, il questionne les clichés, le racisme ordinaire, les querelles intercommunautaires, intracommunautaires, et tout ça avec énormément d'humour. Il va très très loin, et ses guests vont très très loin aussi. Notamment, alors il y a une scène avec Mathieu Kassovitz qui est absolument géniale.
Qui cherche l'homme noir,
comme les esclavagistes cherchaient l'homme noir. Donc c'est à la fois extrêmement malaisant, mais aussi très drôle. Ouais. Et voilà, et Zadi, lui, est aussi absolument irrésistible parce qu'en fait, il ne sait pas du tout de quoi il parle, le héros, dans le film. Enfin, il est complètement à la ramasse, il véhicule lui-même des clichés. Et donc, ça en fait quelque chose, un objet absolument drôle et surtout très politique. Et les messages passe beaucoup mieux en riant qu'avec des gros sabots.
Fabrice,
tout
pareil
tout simplement d'accord.
Ouais, la presse était assez unanime à l'époque déjà.
C'est extrêmement drôle, c'est extrêmement novateur, c'est extrêmement culotté aussi, parce qu'on voit beaucoup de films qui devraient un peu transiger avec la bonne morale et qui ne le font pas, et celui-là le fait. Et puis il y a ce goût que moi j'aime beaucoup dans le film de taper sur tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde en prend pour son grade. Le milieu du showbiz, les chanteurs, les espèces de groupies qui sont là, les blacks, les blancs, les beurs, tout le monde en prend pour son grade. Et vraiment, c'est réjouissant parce que ça, voilà, moi j'aime beaucoup ce
bowling. Et puis la forme est intéressante, cette espèce de vrai faux documentaire assumé.
Il y a une scène folle comment il s'appelle, Lucien Jean-Baptiste. Ouais. Espèce de...
Et Fabrice Eboué.
Et Fabrice Eboué, où ils partent dans un délire total. Non, vraiment, vraiment un bon film, totalement, pas tenu, mais extrêmement
cool. C'est jubilatoire.
Bon, bah là, si on vous a pas convaincu, tout simplement Noir, vous retrouvez ça sur MyCanal. On va changer d'ambiance, les amis, pour dire quelques mots de Sentinelle. Ça arrive sur Netflix, c'est réalisé par Julien Leclerc et porté par Olga Kurilenko.
Il y a un problème. Écoute, je sors première du centre de formation. Je parle 5 langues. Et tout ça pour arpenter le bitume sur l'opération Sentinelle.
Votre sœur a été retrouvée ce matin. Il semblerait qu'elle ait été violée. Ivan Kalnikov est le fils de Leonid Kalnikov. C'est aussi un homme influent et respecté que certains disent protégé.
Il va payer pour ce qu'il a fait.
Alors, on est dans le bon vieux film de vengeance porté pour une fois par une femme, Olga Kurilenko, qui est donc Clara, jeune militaire. Elle est sortie majeure de sa promo. Mais au retour de Syrie, elle s'ennuie ferme puisqu'elle a été affectée à l'opération Sentinelle. C'est ces militaires qu'on voit patrouiller dans nos rues pour surveiller et déjouer d'éventuelles menaces d'attentats. Elle se reconstruit comme ça, Clara, lorsqu'un soir, sa sœur, qui s'appelle Tania, est retrouvée laissée pour morte ou quasi sur une plage. Elle a été violée, tabassée, on sait très vite par qui. Évidemment, c'est par le fils d'un puissant oligarque russe qui est puissant et protégé, ça va avec. Clara, vous me voyez arriver, décide de se venger et de le faire payer. C'est cousu de fil blanc, mais j'ai envie de dire Fabrice Leclerc.
C'est décousu de fil blanc, moi je dirais. Non, j'aime beaucoup Julien Leclerc parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Il avait fait Braqueur. Il avait fait d'autres films d'action. Il sait vraiment y faire. Il a un vrai talent. C'est quelqu'un qui défend le cinéma de genre en France et c'est très bien parce qu'il le fait bien. Mais alors, mon Dieu, le scénario. Déjà, Olga Kurilenko, qui est militaire, elle doit faire 1m55 et 32 kilos toute mouillée. Elle va battre tous les oligarques russes qui, eux, font 250 kilos et ont des biceps comme les cuisses. Non, puis voilà, puis après ça, parfois, elle est lesbienne, le fils de l'oligarque est gay, donc lui, ça... On part dans un espèce de série Z.
Mais oui, mais série Z qui n'est pas... Bon.
Non, mais c'est tellement détricoté que ça en devient ridicule, quoi. Enfin, c'est gros comme un immeuble.
Marilyn me regarde du coin de l'œil. Ce Sentinelle, Marilyn.
Ah, mon Dieu, que c'est mauvais, que c'est lourdeau. Et certes, il a peut-être un petit talent de mise en scène, mais là, qui est plutôt caché, je dirais, non, parce que même les scènes d'action sont assez mollassonnes.
Il y a un problème de montage. Alors, il y a certaines scènes, moi, que je ne comprenais pas parce qu'elles sont montées à l'envers.
On comprend rien.
Oh, non.
Et surtout, non mais attendez,
c'est
surtout,
assez simple à comprendre.
Ce problème de, vous disiez en préambule, une femme dans un...
Oui,
alors moi je veux bien qu'on donne des rôles aux femmes. Mais enfin, qu'on les écrive, s'il vous plaît. Oui. Et puis surtout, sous couvert de...
Ah bah si, il faut écrire les rôles de femmes en plus.
Non, mais attends, on va pas s'en sortir. Évidemment, là, le scénario se veut très empathique envers les femmes qui sont victimes de violences, certes. Mais alors, pour être un minimum crédible quand on a ce discours, s'il vous plaît, évitez les plans gratuits de nana à poil dans les douches, les scènes de sexe absolument gratuites, parce que oui, évidemment, c'est un film d'action, donc il faut contenter les messieurs. Mais de bout en bout, c'est pas possible.
Il y a des messieurs torse nus aussi.
Bon.
Moins.
Sentinelle
sexualisé.
Sur Netflix, vaut mieux voir tout simplement Noir, si j'ai bien compris, sur MyCanal. Vous restez avec nous dans un instant. De beaux conseils, je trouve, La fille au bracelet et Cherry. À tout de suite pour la fin de Clap, votre émission cinéma sur Europe 1.
Europe 1.
Et on se retrouve, les amis, pour la dernière partie de Clap, toujours en compagnie de Marilyn Letertre, de Madame Figaro, de Fabrice Leclerc, de Paris Match. Vous l'avez compris, on vous a conseillé tout simplement Noir, un petit peu moins Sentinelle. Je voulais qu'on dise un mot maintenant de La fille au bracelet de Stéphane de Moustier, avec notamment Anaïs de Moustier, sa sœur Roche Dizem et Chiara Mastroianni.
Le corps de la victime présentait 7 plaies de profondeur variable, mais qui ont toutes été provoquées par le même objet tranchant, type couteau de cuisine.
Je sais que Flora avait mis en ligne une vidéo qui n'aurait pas dû l'être.
Mais vous ignoriez qu'il s'agissait d'une vidéo à caractère pornographique de votre fille, n'est-ce pas ?
Le fait que Lise ait été au mauvais endroit au mauvais moment ne devrait pas lui coûter sa jeunesse.
Jules, c'est quoi ce couteau ?
Bah, c'est un couteau.
Alors, Lise a 17 ans, elle est accusée du meurtre de son amie qui s'appelle Flora. Elle vit avec un bracelet électronique. Lorsque 2 ans plus tard, elle va comparaître évidemment devant la cour d'assises. C'est un film à la fois d'audience, je ne vais pas trop en dire parce que c'est surtout l'audience, l'ambiance, les sous-entendus qui sont intéressants dans ce film. Anaïs de Moustier joue la procureure. On suit aussi le tourment des parents de Lise, qui sont joués par Roche Dizem et Chiara Mastroianni, avec au centre de l'enquête un couteau rouge qui manque à l'appel. Marilyn, celui-là, vous l'avez aimé ?
Beaucoup.
Ah, voilà, je savais.
Beaucoup, beaucoup, parce que c'est extrêmement malin, parce que déjà, le film sème le doute du début à la fin. Les parents, pendant tout le film, vont se demander « Ma fille est-elle innocente ou non ?» Évidemment, ils sont tiraillés. Exactement, ils sont totalement tiraillés entre leur amour pour leur fille puis la crainte qu'elle soit effectivement une criminelle. Et donc voilà, et le film est extrêmement subtil, très bien écrit, jamais ennuyeux, alors que quand même, il y a beaucoup de scènes de procès. On sait bien que les films de procès peuvent être très très vite rébarbatifs.
Mais quand c'est réussi, c'est quand même toujours
passionnant. Effectivement, et là c'est vraiment... Le film est passionnant. Mélissa Gers, qui joue donc la jeune fille en question, est absolument fantastique parce qu'elle a ce truc totalement imperméable en fait pendant le film qui appuie le point de vue et le parti pris du scénario où on ne sait vraiment pas si elle est coupable ou non. Et donc, il y a Roche Dizem et Chiara Mastroianni en parents qui sont torturés, qui sont fabuleux également.
Fabrice Leclerc, oh, la fille au bracelet, vous allez me mettre une réserve.
Non, ou une petite. Bon, c'est très intéressant parce que c'est vrai, le personnage de cette jeune fille me fait penser à l'actualité de ces derniers jours et ces jeunes adolescents.
C'est terrible comment l'actualité résonne.
Manifestement, aucun remords et elle n'a aucun remords. On ne sait pas de tout le film si elle est coupable ou pas. On le saura à la fin, évidemment, il y a le verdict. Non, le film est tenu. C'est moi qui adore faire entrer l'accusé. Après, j'ai quelques petites réserves sur la répétition des scènes de procès qui, pour moi, ne sont pas essentielles.
Parce qu'il faut dire qu'il y a aussi des scènes où on revient dans le passé, des flashbacks, rythmés par du procès.
Et le gros manque de ce film-là, pour moi, c'est le personnage justement de cette jeune fille qui n'est pas explorée, qui n'est pas travaillée. Et j'aurais aimé en savoir plus sur elle, j'aurais aimé être plus dans sa psyché.
Mais c'est pas l'histoire du film,
que dans
finalement.
Celle de ses parents.
Alors que moi, je trouve ça intéressant, parce que justement, la question, c'est est-ce que les parents connaissent vraiment leurs enfants ? Donc on est au même niveau que les parents.
Le père soutient sa fille et la mère doute un peu. Bon, d'accord, une heure et demie de film, ok, j'aimerais bien avoir autre chose.
Après, c'est là où vous nous l'énervez.
C'est un film extrêmement respectable. Plutôt bien joué, pas par tout le monde. Non, film à voir, à découvrir et à revoir.
Sur les films d'audience, de procès, honnêtement, pour moi, ça fait partie du haut du panier de ces dernières années quand même.
Oui, milieu
du
panier.
En France. Bon, allez, La fille au bracelet, vous trouvez ça sur My Canal. Et on finit avec Cherry, qui arrive sur Apple TV, signé des frères Rousseau, avec notamment Monsieur Tom Holland.
J'ai 23 ans. Des fois, je me dis que je sais pas trop apprécier la vie. Je me suis engagé dans l'armée.
Pourquoi t'as fait ça ?
Je me demande parfois si j'ai pas vu à l'avance tout ce qui nous attendait. Et c'était un cauchemar. Mon seul vrai mérite, c'est d'être revenu vivant.
Cherry, qui est donc le nouveau film des frères Rousseau, habitué de l'univers Marvel, Fabrice les adore. Cette fois, il nous parle du stress post-traumatique de Nico Walker. C'est un jeune Américain sans histoire, aide-soignant dans l'armée américaine. Il va participer à la campagne d'Irak. Il en revient bouleversé, souffrant donc de ce fameux trouble de stress post-traumatique qu'on a vu dans beaucoup de films. C'est là encore un thème qui a été exploré de multiples fois. Sauf que pour essayer de s'en sortir, eh bien lui commence à consommer, vous savez, des opioïdes, ces espèces de psychotropes qui font un ravage aux États-Unis. Il y a pas mal de documentaires qui sont sortis sur le sujet. Et comme ça coûte cher, eh bien pour financer ces opioïdes, il se met à braquer des banques dans la région de Cleveland. Là encore, c'est quand on raconte l'histoire comme ça, on se dit, bon, est-ce qu'il y a de la nouveauté par rapport à certains films qu'on a pu voir sur la question du stress post-traumatique ? Sauf que dans la forme, c'est quand même virtuose, Fabrice Leclerc.
C'est effectivement virtuose dans la forme, et les frères Rousseau savent faire, et ils le font très bien. Ils inventent plein de choses, du ralenti, du slow motion, ils ont vraiment fait leur film en partie. Il y a plein d'inventions visuelles. Tom Holland est extrêmement attachant dans ce rôle, parce que c'est un grand acteur qui sait faire autre chose que Spider-Man. Après, moi, je trouve le film extrêmement immature et c'est le gros problème de ce film-là pour moi, c'est qu'il traite de sujets denses, de sujets durs. Il parle d'une Amérique qui n'est pas valeureuse, mais ça, j'ai l'impression que c'est quand même raconté par, par quelqu'un de 17-18 ans. Alors oui, c'est tape à l'œil, oui, c'est bien joué, oui, c'est souvent virtuose. Voilà, il manque un peu de profondeur et il manque un peu d'implication. J'ai l'impression qu'ils ont voulu vraiment faire leur film sérieux, montrer qu'ils peuvent faire autre chose que des films de super-héros. Ils le font très bien, mais manque quand même le fond et donc le scénario.
Bon. Marilyn.
Je ne saurais mieux dire. Je suis complètement d'accord. La forme est virtuose. Le fond est quasi nul. C'est-à-dire qu'on a pris tous les films. Non, c'est pas ça. Mais on a pris tous les films qui ont déjà existé sur ce sujet. Puis on a fait un espèce de gros patchwork de tout ça. Donc c'est pas très inspiré. Ça sonne pas vraiment la sincérité et l'authenticité. C'est le vrai problème. Après, Tom Holland, il est chouchou comme tout. On sent bien qu'il a envie de s'acheter une petite street cred.
Il est plus que chouchou comme
Mais attends. Il essaye de gagner en épaisseur. Il y arrive plutôt bien, mais si tu me laissais finir mes phrases, tu l'auras entendu.
Va finir comme le film de Gakurilenko.
Et pour le coup, non, lui, heureusement qu'il est là, parce que c'est un peu la valeur ajoutée du film, qui sans lui ne serait qu'un grand clip. Un grand clip extrêmement bien foutu,
mais
on s'ennuiera un petit peu quand même.
Oui,
c'est virtuose.
Non mais en vrai, pour que nos auditeurs sachent
qu'ils vont voir... Oui, c'est un film de mise en scène uniquement.
2h20, on ne quitte pas l'écran.
Voilà,
Parce que moi, si on ne me raconte pas une histoire qui me tient, je m'ennuie.
Ébouriffant. C'est visuellement ébouriffant.
C'est un film qu'on regarde plus pour la forme que pour le fond. Est-ce que je mets tout le monde d'accord?
Tout à fait.
Oui, c'est l'intérêt et le problème du film.
C'est l'essentiel qu'on se quitte, bons amis. Cherry sur Apple TV.
On va voir ça dans les couloirs.
La fille au bracelet, vous trouvez ça sur MyCanal. Sentinelle, Netflix et tout simplement Noir. Sur les quatre, c'est le film qu'il faut absolument voir, tout simplement Noir.
Absolument.
Oui. Bon, voilà, on met tout le monde d'accord. Merci beaucoup, Marilyn Leterre, Madame Figaro, Fabrice Leclerc, par image d'être venu une nouvelle fois.
Merci,
parler,
Marilyn.
Commenter, critiquer ce film qui sort sur les plateformes ou en DVD, VOD dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma, émission réalisée par Nicolas Baudin, préparée par Marjorie Adelson. Émission que vous retrouvez évidemment en podcast, donc n'hésitez pas à la rattraper, à réécouter. Les prises de bec entre Fabrice et Marilyn. On se retrouve la semaine prochaine, 14h-15h, pour un nouveau numéro de Clap sur Europe 1. Europe 1.